Comment ça va, les gars?
Oh, trop en forme. Trop d'énergie quand c'est son sujet.
Je suis en forme parce que c'est mon sujet. Le sujet de la dernière fois était pas ouf, hein.
Non.
J'ai trouvé, hein.
Et celui d'avant?
Celui d'avant, c'était toi?
Quel connard, voilà,
pas,
c'est
pas
cramé.
Fou non plus, hein.
Ça va, les gars?
Pas terrible.
Ça va, Manuel?
Les deux derniers. Comment ça va, Manuel?
Très bien, merci.
Comment ça va, mon ami Romain?
Ça va, et toi, mon ami Léo?
Ça va, oui, quand même. Ça va, j'ai lu un article Medium qui s'appelle 40 leçons de vie.
C'est toi le médium.
Bah merci, déjà ça me fait plaisir.
Parce que moi j'ai lu un article, ça m'a pas épaté non plus venant de toi, quoi. Tu vois, je me suis dit ok, un de plus dans la journée et
bah,
donc...
Parce qu'il y avait, il y avait une suite en fait à cette phrase.
Okay.
40 leçons de vie.
Parce qu'avec l'article médium, moi ça m'étonne vraiment pas.
Oh ta gueule.
40 leçons de vie que j'ai apprises en lisant plus de 100 livres de développement personnel.
C'est long.
Non, c'est à peu près normal.
Ah, de lire 100 livres, c'est long.
T'as dû faire ça avec les Tom Tom et Nana, non?
Même pas, ok, et donc
t'auras pas le temps dans toute ta vie.
Non, là il reste plus beaucoup de temps, hein. Là faut que tu t'actives. Je pense, t'en as lu combien toi tu penses, Manuel?
Je sais pas, objectivement je
c'est idée. Tellement large le développement personnel.
Beaucoup.
Bah si tu peux compter ça m'arrange là en direct.
Non là c'est pas possible.
En attendant je peux vous passer, je sais pas, une comptine.
Mais une pub.
Ok, attends.
Appelez-la avec moi, les enfants. Ah non, ça c'est pas une pub. Ok, bon on a pas de pub. Donc l'article était hyper intéressant, en revanche 40 phrases, je me suis dit que c'était quand même un peu long, donc j'en ai dégagé 20. Voilà, donc j'ai 20 phrases assez courtes pour vous, et je voulais vous les citer et qu'on y réagisse. Je pense qu'on sera pas toujours d'accord, je pense qu'il y en a qu'on va tous les trois détester, il y en a qu'on va tous les trois aimer, j'ai déjà mon petit avis, j'ai hâte d'avoir le vôtre. Vous êtes prêts?
On est prêts.
On
dirait un jeu télévisé.
On n'a pas le choix.
Première phrase. Tu veux que je fasse le présentateur?
Mais là, t'es bien parti.
Je n'y risquerai pas. Le comportement passé d'une personne est le prédicateur le plus fiable de son comportement futur. Si par le passé, quelqu'un t'a déçu, il y a de grandes chances que par le futur, il te déçoive à nouveau pour cette même raison.
Quand tu y réfléchis vraiment, les gens ne changent pas beaucoup. Les bases sont installées. Ils ont une marge de progression. La marge de progression, comme les sportifs de haut niveau, est directement liée à l'intensité qu'ils mettent dans le travail,
ouais.
Et surtout dans la conscience du problème. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas conscience qu'ils ont un problème ou qu'ils ont un objectif et qu'il va falloir fournir du travail pour y arriver, de toute façon, ils vont pas changer. C'est quand ils ont conscience de ça et que le niveau d'effort pour changer est inférieur au niveau de confort pour rester le même, qu'ils vont changer. Sinon, ils ne changeront pas.
C'est marrant, ça faisait partie des leçons de vie.
Et moi, c'est une erreur que je ne fais pas beaucoup dans le travail, mais que je fais plus dans la vie.
Dans le perso.
Ouais, de penser que les gens vont pouvoir changer, qu'ils vont prendre conscience. Enfin, tout simplement qu'ils sont intelligents. C'est-à-dire que parce que on a des discussions intéressantes, parce que je leur dis tiens, lis ça, regarde ça, etc. et qu'ils font les bons constats, sous prétexte qu'ils font les bons constats, je me dis bah, ils vont fatalement évoluer, ils vont fatalement changer, ils peuvent pas rester dans cet état. Et souvent c'est parce que je mésestime le confort de la bêtise.
Ouais, ben, y avait une des
qui
leçons...
est un truc que j'exècre mais qui visiblement est assez répandu.
Il y avait une des leçons qui disait n'attribuez pas à la malice ce qui peut être attribué à la bêtise.
Oui.
Voilà. Moi, je l'avais viré, mais comme t'en parles. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile dans le perso parce qu'il n'y a pas d'attachement, alors que dans le pro, tu peux te séparer de quelqu'un. En général, si t'as bien fait ton travail, c'est pas devenu un proche, c'est resté un collègue. Donc c'est beaucoup plus simple que dans le perso.
Je crois que tes mots ont trahi ta pensée. C'est beaucoup plus difficile dans le perso parce qu'il y a de l'attachement, tu veux dire.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, comme il n'y a pas d'attachement dans le pro,
voilà.
c'est pas si difficile de te séparer de quelqu'un. En général, t'es pas devenu pote avec ces personnes-là. Dans le perso,
c'est pas le but.
T'as profondément envie que les gens changent.
Oui, mais c'est même un projet de vie commun.
Ouais.
C'est-à-dire que dans le perso, peu importe le statut que ces gens ont autour de toi, que ce soit des amis proches, les gens avec qui tu vis, ou je sais pas quoi, ton couple, ou je sais pas quoi, t'aspires à avoir une relation qui induit un progrès réciproque,
ouais.
Et de s'accompagner réciproquement. Donc si le changement n'est pas moteur d'une évolution positive pour chacun, en fait, vous vivez des vies juxtaposées, mais pas communes.
Et je pense que ce qui est très frustrant...
T'es un accompagnateur d'EHPAD, en fait.
Bah, t'es le moteur déclencheur, Mais si tu vois pas derrière les efforts qui sont souvent très personnels, il se passe pas grand chose. Et c'est ce qui fait que parfois tu rencontres des gens et quand ils sont avec toi, tu te dis, mais putain, ils comprennent, ils ont envie, ils sont dans la même logique et tout. Et quand tu les retrouves dans leur petit confort, chez eux, etc., tout d'un coup, ça devient beaucoup plus difficile, quoi.
Ouais. Je trouve qu'il y a un critère qui est très intéressant, c'est de mettre les gens justement dans un très grand confort. Mets les gens dans du confort, mets les gens dans un contexte favorable, fais en sorte qu'ils aient à peu près tout de disponible, facilite-leur la vie et vois comment ils se comportent. S'ils ont encore faim, s'ils bossent, s'ils sont disciplinés, c'est intéressant. S'ils s'endorment dans ce confort-là, s'ils deviennent fainéants, qu'ils ne font rien, qu'ils n'ont pas d'objectif, qu'ils n'ont pas de feuille de route,
qui trouvent ça normal,
qu'ils considèrent juste qu'ils ont de la chance d'être là et qu'ils profitent du moment, c'est le meilleur indicateur pour te dire qu'ils resteront vraisemblablement des mollusques au soleil.
C'est hyper chiant parce que ça faisait partie aussi des leçons de vie. Et il disait également à l'inverse que la façon dont tu agis dans la difficulté est aussi un grand indicateur de qui tu es. Il disait un bon exemple, c'est qu'est-ce que vous avez fait de votre temps pendant la pandémie ?
Je dirais pas que je suis chiant, je dirais que je suis clairvoyant.
Si t'es chiant. Est-ce que vous en avez fait quelque chose de productif ? Qu'est-ce que vous avez fait de tout ce temps chez vous et de cette énergie ? Est-ce que vous avez fait du pain ? Moi j'ai joué à Mario Kart personnellement.
Non, moi j'ai beaucoup...
pas ce que ça a dit de moi.
T'as fait du Twitch ?
J'ai fait du Twitch quand même.
Je me suis noyé dans le...
L'alcool.
Dans le boulot. Ouais. Non, je me souviens, pour le coup, je suis retourné à 10 ans avant, en fait, quand j'étais tout seul, un peu chez moi avec mon studio, sans avoir de routine positive tous les jours, etc. Et la difficulté, c'était ça, c'était de s'imposer une routine positive sans avoir d'éléments extérieurs qui viennent la rendre obligatoire.
Et on se voyait moins.
Complètement.
Ah, tu sais qu'il y a une pandémie qui arrive, là ?
Ouais.
Ah oui ?
Oui, oui, de fou.
Une nouvelle.
Ça va être le couvre-feu, là, 19h, non ?
Ouais, ça arrive.
C'est 6 mois, là, je crois.
Faut rentrer.
Allez, vous
faut
faire rentrer, Romain. Foutre.
Deuxième leçon, parce qu'on en a 20 quand même. Donc, si vous pouviez fermer un peu plus vos gueules. Deuxième leçon, la plupart de vos succès seront dus à la discipline, pas au talent.
Je suis d'accord.
Et encore moins à la motivation qui n'existe pas.
Qui n'existe pas.
Il faut.
Tout à fait.
Il faut buter ce mythe.
Ouais.
La motivation est quelque chose qui n'existe pas. La discipline existe. La méthode, l'organisation, la rigueur, la capacité à faire de façon répétée et avec de la volonté, de la bonne volonté et de la régularité, ça conduit à des résultats.
La motivation est le résultat de la discipline.
Exactement.
T'es motivé après avoir fait.
Et ça, il y a des gens qui le comprennent pas du tout.
Ouais.
Ils disent « Ah, je suis pas motivé pour faire ça ». Mais tu sais, de facto, t'es jamais motivé pour faire un truc qui est un effort.
Lisez Motivation Myth.
Ouais.
Exceptionnel à ce sujet. Je ne l'ai conseillé que 45 fois.
Ouais, mais je travaille beaucoup en ce moment, je rentre tard, j'ai du mal à lire, je pourrais pas le lire tout de suite, Léo.
Voilà.
Ta gueule !
Oula.
T'as vraiment envie. Même le micro, il a coupé en fait.
Dit-il alors que c'est le troisième livre de sa vie qu'il est en train de lire.
Ouais, peut-être, mais parce que justement, je suis énervé d'avoir mis trop de temps à comprendre.
Ah, bah ce sera un autre point, tiens. Là, on est en off. Évidemment, Thomas a coupé, donc les gens peuvent pas m'entendre. Mais j'aimerais beaucoup que les gens s'abonnent à ta newsletter, Manuel, parce que on y apprend. C'est un coffre au trésor avec plein de savoirs. Un coffre de trésor avec plein de savoirs à l'intérieur. Et j'adorerais que les gens s'abonnent à la newsletter qu'on peut retrouver sur manueldiaz.fr. Vraiment, c'est exceptionnel.
Merci, Léo.
Plaisir. Ah, c'était pas coupé ?
Non.
Ah
je crois
mince.
Pas. Je
oh Thomas, il nous fait que des vannes, celui-là.
Non, mais Romain parlait de lecture et on en parle souvent, c'est vrai, mais je pense que c'est ce que et je l'écrivais justement. Lire, c'est comprendre à 20 ans ce que tu aurais déduit à 40. Et c'est la meilleure synthèse que je puisse donner pour essayer de donner envie aux gens de lire. Et arrêter de me faire chier en me disant « Ouais, je lis pas, mais je regarde des vidéos, je lis des articles, des résumés. »
Ça n'a rien à voir.
Etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Lire, c'est se mettre dans un état de concentration, c'est travailler ta capacité de concentration, c'est t'éloigner de la distraction, c'est te confronter à un vocabulaire qui n'est pas le tien, peut-être à une langue qui n'est pas la tienne si tu lis en anglais, c'est fournir un effort intellectuel, c'est ne pas avoir un truc sous la main qui va te donner les réponses, mais t'obliger à réfléchir, à relire plusieurs fois le même passage parce que tu l'as pas compris, etc. Et c'est le début de la discipline. C'est le début de la discipline.
Il faut savoir que dans les 48 lois du pouvoir, Romain a relu 48 fois la première.
T'es con. C'était très long.
Troisième leçon. Vous n'obtenez pas ce que vous méritez, vous obtenez ce que vous attendez. C'est votre état d'esprit qui détermine ce que vous obtenez.
Je pense qu'on obtient ce qu'on est. souvent. Pas ce à quoi on aspire, pas ce... non, il faut que tu sois véritablement, et ça ne ment pas, ce que tu espères devenir. Donc tu peux pas théoriquement devenir sportif, t'es obligé de l'être.
Ouais.
Si tu l'es pas, bah, tu le seras jamais, en fait. Si t'as véritablement envie d'aller vers un objectif, si t'as envie de réaliser, je sais pas quoi, un projet, une boîte, lancer des produits ou je sais pas quoi, bah, tu le seras pas par la vertu du Saint-Esprit, il va falloir l'être. Vraiment. Et donc pour ça, ça va te demander d'abandonner des trucs. Donc tu veux réaliser des projets prématurément, arrête d'être un enfant. Si tu te comportes comme un enfant, tu réaliseras pas ces projets, tu auras des résultats d'enfant. Si tu as une vie d'étudiant, tu auras des résultats d'étudiant. Si tu as une vie d'adulte, tu auras des résultats d'adulte. Si tu te cultives comme un adulte, tu sauras soutenir une conversation avec d'autres adultes qui vont être capables de peut-être avoir de l'intérêt pour ce que tu dis et peut-être même de t'encourager ou te donner des conseils. Mais si tu n'es pas ce à quoi tu aspires, eh bien, c'est un rêve, en fait. C'est un projet qui n'a pas de roadmap et qui n'a pas de deadline, c'est un rêve.
Et on a parlé de la notion de mérite dans le podcast il n'y a pas longtemps. Ça ne veut rien dire d'obtenir ce que tu mérites.
Tu
mérites rien du tout. Je pense qu'on a... On s'est déjà tous fait la réflexion de voir quelqu'un dans un métier, dans un commerce ou quoi. Oh là là là, cette personne, elle pourrait être mannequin.
Ah.
C'est-à-dire, bah, déjà, peut-être qu'elle a pas envie d'être mannequin. Et peut-être aussi qu'elle a rien fait pour. C'est-à-dire, être mannequin, c'est pas juste être un peu beau gosse.
Non, c'est être beaucoup beau gosse.
C'est être beaucoup beau gosse et c'est faire la démarche et c'est apprendre à poser, etc. Enfin bref.
Et ça suffit plus parce que nous, on a des talents qui sont plutôt dans ce segment, etc.
Non, merci Manuel.
Non, Léo, je crois que non. Ouais.
Et quand tu discutes avec les agences de mannequins avec lesquelles on négocie pour placer certains de nos créateurs, etc., tu te rends compte que qu'être beau gosse, ça suffit pas. Maintenant, il faut de la personnalité, de la répartie, il faut parler plusieurs langues, il faut être capable de voyager, il faut être un bon produit média, il faut être capable de faire des interviews, etc. Et ça suffit pas. Le mannequin sur papier glacé qui fait quelques photos et qui se retrouve dans des magazines, c'est fini. Je veux dire, ça fait bien longtemps que La Redoute n'envoie plus de catalogue.
Donc vous méritez.
Dans le pire des cas,
tout.
Tu seras mannequin La Redoute.
Vous méritez rien du tout, vous méritez juste ce que vous êtes. Des pauvres merdes. Pardon, je suis peut-être allé un peu loin là-dessus.
Un petit peu, ouais, je crois.
On passe au quatrième conseil.
Moi, je passe mon temps quand les gens me déçoivent à dire tu mérites la mort. Alors, tu vois.
Moi, j'aime bien ta remarque, Manuel, qui dit mais attends, il respire le même air que nous, lui.
Oui.
Ça, elle est très violente, je trouve.
Bah, c'est vrai, c'est du gâchis.
Allez, troisième.
On ferait mieux de planter des arbres, ils contribuent positivement à la planète, alors que certains êtres humains la gâchent par leur médiocrité ou l'inadéquation entre leurs prétentions et leurs actions.
C'est la version un peu plus extrême que il a le droit de vote.
Oui.
Quatrième conseil.
D'ailleurs, non, je voudrais juste rajouter truc
fou.
Là-dessus, en disant que quand tu as des ambitions mais que tu ne travailles pas, ne te mens pas. Tu n'as pas d'ambition, tu as des prétentions.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quatrième leçon. Le bonheur... Ah, j'ai trop hâte d'avoir votre avis sur celle-là. Le bonheur consiste à trouver le bon équilibre entre votre travail et vos relations. Aucune de ces choses ne vous apportera le bonheur seul.
Oh, alors...
Alors déjà, là, Romain, il dit, mais les relations, qu'est-ce que c'est, les relations mais...
Il a pas dit sexuel. Hein.
Donc te branler au travail, ça suffit pas.
Moi, je pense que peu importe.
Bah, c'est ça la synthèse.
Peu importe si t'appelles Vogel. Peu importe si t'appelles ça du personnel, du travail, des relations, tout ce que tu veux. Je pense que
ça c'est faux déjà.
En tout cas, j'ai trouvé ce qui était mon bonheur. Je pense que pour moi, le bonheur, peu importe qui tu es,
ouais.
C'est de continuer d'avoir, de prendre du plaisir à apprendre.
Ok.
Pour ça que je m'en veux autant d'avoir démarré la lecture que maintenant, parce que je pense que peu importe que tu que t'aimes moins ton travail, que ta relation perso te plaise pas, que peu importe ce qui se passe, je pense que tu peux être heureux dès lors que tu continues d'apprendre des choses.
Mais
tous les
ce
jours.
Ce que tu veux dire, c'est que tu peux apprendre à la fois dans le pro et dans le perso.
Oui, c'est ça. Mais peu importe là où tu apprends le plus, je pense qu'il faut que tu te sentes évoluer tous les jours pour que bah, tu puisses te considérer un moment sur cette planète et te dire que t'es pas juste là pour consommer de l'énergie. Quoi.
Mais dans les deux secteurs.
Pas forcément.
Bah, c'est ça la question.
Je sais plus quel auteur disait « On n'est jamais seul quand on lit ».
C'est très bien.
C'est ce que t'essayes de dire, en fait.
Et pas « On n'est jamais seul dans le lit, hein, Romain ». Non, parce que je crois qu'il a pas compris, là.
Non mais ça m'énerve les gens qui me disent « Ah non mais là je suis trop bien parce que ça y est j'ai ma maison, je vais me marier, mon taf j'ai été promu. » Mais peut-être que tu t'emmerdes, peut-être que ça fait 15 jours que t'as rien appris de nouveau.
Mais c'est fou, non, mais, je veux dire... mais laisse les gens être heureux.
Mais non, parce que les gens,
peut-être
pour
que
beaucoup
certains, c'est bien, mais c'est peut-être leur roadmap social, tu vois. C'est... Ils ont une roadmap avec des cases et des étapes. Et ces étapes sont vachement importantes pour eux.
Mais ce qui m'énerve, c'est
que
c'est souvent matériel. Et en fait, j'ai compris que le matériel ne t'aide pas à être plus heureux.
Non mais attends,
alors
mais attends.
Tu dis ça, t'as pas une flic-flac au poignet hein, non plus. Hein.
Attends, mais t'es un rageux de fou. Qu'est-ce que tu t'en branles si quelqu'un te dit « bah je suis heureux parce que j'ai une famille ». Bah non, mais ça m'emmerde, peut-être que tu te fais chier quand tu regardes le foot le soir à la télé, qu'est-ce que tu t'en fous ?
Non, parce mais que déjà, gênant, c'est quand c'est Dupont de Ligonnès qui le dit.
Ah oui, ça c'est... la famille était terrassée.
Déjà, je trouve que... Je sais pas, vous arriverez à dire que vous êtes heureux ? Vous êtes heureux, les gars ?
C'est difficile. Pas, en fait...
Moi, on m'a déjà posé cette question, j'ai déjà répondu. Alors, je peux répondre
oui,
dans
bonheur,
ce podcast.
Le bonheur, ça l'emmerde, tout ça.
Mais c'est une ambition que je trouve inaccessible. Il faut une énorme prétention pour prétendre au fait d'être heureux. Mm. De façon durable. Tu peux avoir des petits moments, des échantillons, mais la vie est un combat. Il faut pas vendre Disneyland aux gens. Il faut leur vendre la réalité. C'est que c'est beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de courage dans tes relations, le courage de dire ce qui déplaît, le courage d'être honnête.
C'est difficile d'être heureux.
C'est un combat. Et au milieu de ça, tu as des petits échantillons de moments suspendus qui peuvent ressembler à une forme de bonheur, de plénitude, voilà. Mais c'est voilà, c'est comme ça, c'est éphémère. Il faut les saisir sur l'instant et s'en souvenir. Mais le reste du temps, c'est pas ça. Et c'est à force de vendre aux gens que cet état devrait être permanent, ouais, durable, etc., qu'on en fait des loukoums.
Et tu deviens dépressif, en fait.
Oui.
Parce que tu te lèves un matin du mauvais pied, tu dis, bah merde, je suis pas heureux dans ma vie. Bah non, juste... Moi, je me dis que quand je dézoome sur ma vie, je suis heureux.
C'est-à-dire, t'enlèves tes lunettes?
Parce que. Non, elles zooment pas mes lunettes.
Bon, un peu quand même.
C'est pas des télescopes. Parce que quand je vois ma vie, je me dis, ah putain, c'est stylé quand même. J'ai fait des trucs, je suis fier de ce que j'ai fait. Après, est-ce que tous les matins en me levant, je suis heureux d'aller voir vos gueules, de faire du sport et de devoir écrire toute la journée et chercher des sujets? Pas dans l'absolu, je suis pas heureux toute la journée en fait. Mais j'ai compris que le bonheur, c'était pas ça, c'était plus large que ça. Il y a des jours où je suis très heureux de vivre, tu sais pas trop pourquoi. Il y a des jours un peu moins, mais c'est pas grave, ça fait partie du process.
Et ce que je voulais dire par rapport aux objets, etc., c'est que c'est super éphémère. En fait, c'est surtout ça qui me frustre. C'est de voir aujourd'hui des jeunes qui idolâtrent beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux ou à cause d'eux, et qui se disent, bah, le jour où j'ai la belle voiture, le jour où j'ai la maison, etc., je serai heureux.
C'est pas ça. Parlons de matérialisme deux secondes, puisqu'on va sur ce terrain. Quand tu ne fournis pas le travail qui va te procurer ces petits instants de bonheur dont on parlait tout à l'heure, la satisfaction d'avoir atteint un palier, un objectif, progressé dans un projet, obtenu le oui que tu attendais et pour lequel tu as tant travaillé, etc., etc. Quand tu es impatient, bien tu vas compenser. Et donc, tu vas t'acheter du bonheur. Tu vas t'acheter un bonheur éphémère.
Ouais.
Donc, tu vas aller t'acheter un objet, un statut, un statut social, une voiture, c'est pas du tout dirigé.
Une voiture.
Qui te fait kiffer ou qui change le regard des autres sur toi, etc. Tout ça, ce sont des artifices. T'es en train de te maquiller. t'es en train d'essayer de faire oublier les boutons que t'as sur la gueule.
Même si un V12 Atmo pour Sangue de Ferrari, c'est pas mal quand même.
Voilà.
Oui, c'est très bien.
Et après, il va faire chier les gens parce qu'ils sont contents d'acheter une maison, c'est fou. Hein. Voilà.
Mais en fait, tous ces éléments-là, ce ne sont que des artifices. Alors, c'est super. Moi, je suis le premier à dire, mais si ça te fait kiffer, fais-le, etc. Et c'est super. Mais il faut que tu sois capable, si tu as les moyens... Et on ne parle pas de moyens, parce qu'on n'est pas en train de parler de trucs extraordinaires. Tu peux t'acheter un truc tout simple qui te fait kiffer. Hein. Mais il faut que tu aies les moyens de les acheter aussi vite que de t'en défaire. Si tu n'es pas capable de t'en défaire aussi vite que tu les as achetés, alors tu as un rapport au bonheur qui est un peu biaisé.
Mmh. Et tu penses que les artifices, tout ça, il faudrait arrêter ? Tu penses qu'il faudrait faire feu d'artifices ?
Bien, Léo.
Merci. C'était pour enchaîner sur le cinquième conseil.
On en a 20.
Ouais, cinquième leçon, faudrait qu'on accélère un peu.
Sur les 10 prochains, j'ai rien à dire.
La plupart des gens passent leur vie à essayer d'être exactement comme leurs parents. Ou à faire tout leur possible pour ne pas leur ressembler. Comprendre vos expériences d'enfance peut vous aider à briser ce cycle.
On en a un peu parlé dans le précédent podcast, pour le coup.
Ouais.
Qui était mon sujet, c'est ça ?
Qui était ton sujet, ouais. Et c'est vrai que...
Mais on va le refaire en mieux, là.
C'est assez notable, tant il y en a peu.
ça, c'est vrai.
Quel connard.
Non, mais il a raison de le dire.
C'était le deuxième sur 100, d'ailleurs.
Exactement. Et donc, une attitude enfantine, c'est ou le mimétisme ou l'opposition.
Ouais.
Le fait d'être soi demande beaucoup de travail. Mais être la copie conforme du modèle parental... ou le strict opposé du modèle parental, c'est très enfantin.
Ouais.
C'est un interrupteur on-off, tu vois. Il n'y a pas de nuance. Le fait de s'explorer, de savoir qu'on est un peu ça, et aussi son contraire, que nos expériences sont mixtes, métissées, mélangées entre nos parents, nos rencontres, nos déceptions, nos succès, etc., etc. Et que tout ça construit un personnage avec des éléments d'assurance et des faiblesses, ça demande beaucoup plus de maturité.
Moi, je suis mon père, mais avec moins de barbe.
C'est sûr.
Sixième leçon. Attention, Romain, celle-ci, elle est compliquée. j'ai dû la relire quelques fois, je l'ai reformulée en anglais, elle était catastrophique.
Mais tu vas la lire trois fois, connard.
Il faut vous concentrer.
T'es pas obligé de dire vous ?
Si. Vous ne pouvez pas retirer une idée de la tête de quelqu'un avec de la logique si cette idée n'a pas été placée par de la logique en premier lieu.
Oui, c'est logique.
Rester en dehors des débats émotionnels, peu de personnes sont véritablement attachées à la vérité. C'est-à-dire que si quelqu'un, on va dire, porte un amour irrationnel à une action ou à quelqu'un d'autre... C'est extrêmement difficile de lui retirer ça de la tête avec de la logique, puisque de toute façon, ce n'est pas raisonné. Donc la logique ne suffira pas.
Je peux prendre un exemple automobile ?
Non.
Ils achètent des maisons, ils sont contents. Vas-y, vas-y.
Non, mais parmi ma communauté, il y a beaucoup de gens qui sont irrationnellement fans de l'automobile avec des moteurs thermiques pour que je puisse défendre une seule seconde le confort de voyage dans une voiture électrique. Alors que moi-même, j'aime les deux, tu vois. Mais donc, je comprends ce que tu dis, parce que si ils n'arrivent pas sur ce sujet avec un regard nouveau et qu'ils ont déjà des a priori beaucoup trop ancrés, bah, tu ne peux pas les sortir de ça, quoi.
Bah, c'est pour ça
c'est difficile.
C'est pour ça mais
moi, je suis arrivé à la conclusion que Romain était un bisexuel automobile.
Ah oui, c'est une bonne façon de le dire.
Bah oui.
C'est pour ça qu'on dit souvent que les gens qui n'y connaissent rien dans un sujet sont absolument sûrs d'eux. C'est parce que c'est tellement pas raisonné leur avis sur la question que de toute façon tu peux pas les raisonner.
C'est ce qui est entré dans ton esprit par un biais, il y a deux façons. Soit ça rentre par l'éducation, l'apprentissage, soit ça rentre par la logique, soit ça rentre par l'émotion.
Ouais.
Bah, tu ne pourras pas extraire de l'esprit de quelqu'un avec une autre méthode que celle qui a été utilisée pour que ça rentre dans son esprit. Ouais. Romain fait des barres de rire parce qu'il a à peu près 5 ans d'âge mental. Donc on a dit rentrer. Donc lui, il voit des carrés dans des ronds. Il n'y a qu'à pousser un peu fort. Hein. Voilà.
Ah non, il voit la baise.
Et vous ne voyez pas les images. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas filmé.
T'es obligé d'assumer, là, Romain.
Pas du tout.
Mais c'est catastrophique.
Ils exagèrent toujours.
Oui, oui. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut en retenir. Et on peut pas sauver les gens contre leur propre volonté.
Ouais.
Quelqu'un qui veut croire éperdument à quelque chose et tu as beau avancer des arguments logiques, tu pourras pas l'empêcher d'y croire. Regarde les platistes.
Putain, c'est fou, c'est l'exemple que j'allais donner. Non, j'allais dire les gens qui sont persuadés qu'on n'est pas allé sur la Lune.
Aussi.
Comment ça les rentrer dans la tête? Bon, ils ont vu une vidéo vite fait, un montage, un truc qui a jamais existé sur YouTube.
Les complotistes en général.
Tu peux leur donner des contre-exemples et leur expliquer scientifiquement pourquoi ça marche pas. Et comme ils ont pas ces codes-là, ils vont jamais les comprendre. Donc c'est beaucoup plus simple de juste s'en tenir à la fausse interview sur YouTube.
C'est vrai.
Merci Romain.
Merci de ta contribution.
Septième leçon de vie. La plupart des gens ne veulent pas changer. Alors arrêtez d'essayer de les forcer. Vous avez trois options. Les accepter, créer des limites claires ou passer à autre chose.
Passer à autre chose, c'est bien.
Ouais, je pense que c'est le plus simple. Mmh.
Mais c'est vrai, et ça prend vachement de temps. Et moi, pour le coup, je me sens assez concerné d'accepter que les gens, globalement, ne veulent pas changer. Mmh. Ce qu'ils veulent, en revanche, ce sont les résultats de la vie de quelqu'un d'autre.
Oui.
Ça, ils le veulent. Ils veulent pas changer, mais ils voudraient quand même les résultats de ce qui serait une vie qui travaille plus, qui est plus disciplinée ou autre. Les résultats sont toujours désirés, mais le changement rarement.
Tu le disais tout à l'heure, ils ont les prétentions.
Exactement.
Huitième leçon de vie, vous ne pouvez pas grandir sans souffrance. Changer ses relations, son environnement ou son état d'esprit, c'est douloureux. La croissance sans douleur n'est qu'un soulagement temporaire, pas un remède à long terme.
Ça n'aide d'ailleurs jamais les gens de leur éviter la douleur.
Ouais.
Et Romain, on sait quelque chose.
J'ai non. pas de vanne là-dessus parce que...
Mais c'est pas une vanne.
Non, c'est mais vrai. C'est vrai.
Je ne le ménage pas.
Ah merde, je pensais qu'il y avait une vanne.
Il s'en plaint pas.
Même moi, ouais, même pas.
Parce qu'il est arrivé au stade où maintenant il accepte les coups.
Non, c'est même pas ça. J'accepte la douleur pour pouvoir atteindre le niveau d'excellence que j'espère.
Mais la réalité, c'est que tu mesures aussi toi-même les progrès.
Ah bah oui.
Complètement.
Et c'est pour ça que tu acceptes que la méthode soit difficile et rude.
Et mais... c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui l'accepteraient.
C'est vrai.
Mais c'est
On
difficile.
Peut lui reconnaître cette abnégation.
Ah bah pour moi, c'est sa plus grande qualité, Romain. Mmh. Moi, j'accepterais pas ça. Hein.
Bah ça.
Je resterais médiocre, mais j'accepterais pas ça.
Bah c'est surtout qu'en fait, tu peux très vite trouver un chemin de facilité. Mais ce qui est chiant, c'est que même si ce chemin de facilité t'amène une partie de cette valeur matérielle, financière ou autre, bah elle t'apportera jamais ce sentiment d'être heureux et de se sentir exister, etc.
Ce que t'apportera ça t'apportera jamais, c'est la considération.
Ouais.
Tu peux trouver des hacks pour avoir des résultats temporaires. Tu peux trouver des raccourcis, des cheat codes pour essayer de passer le tableau, etc. Mais tu n'auras jamais la considération des gens qui ont bossé et qui ont terminé le jeu à la loyale.
Ouais.
Et entre les joueurs, on se reconnaît. Entre ceux qui jouent à la loyale et qui acceptent leur niveau et de se battre pour essayer de progresser, et ceux qui mettent toute leur énergie à essayer de trouver des cheat codes. J'ai aucun respect pour les gens qui trichent.
Moi, il y a une discussion que j'ai beaucoup eue, c'est par rapport aux méthodes de... Non, avec des gens.
Ah.
Pour une fois, je sortais de chez moi. Par rapport aux méthodes de management de Steve Jobs.
Oui.
Il y a toujours des gens qui ont lu 4 phrases chez Combini. C'est pas une balle pour Combini, c'était un exemple comme ça.
Non, mais souvent...
Qui te disent, oui, mais Steve Jobs était un monstre avec ses employés. Et en fait, tu te rends compte que non. Il était difficile. Mais il y a plein de gens qui sont quand même restés 10, 15, 20 ans chez lui, parce qu'en fait, c'est là qu'ils ont le plus appris de leur vie. Et aujourd'hui, quand ils en parlent, bah, ils le remercient parce qu'ils ont été à des niveaux qu'ils espéraient même pas atteindre. Mais il y a des gens qui supportaient pas ce niveau de difficulté.
Et souvent, les gens qui trollent, il y en a eu, des gens qui sont sortis dans la presse pour se plaindre.
Bien sûr.
Des méthodes du management de l'époque, du management de Steve, etc. Souvent, dans la première ère, parce que quand il est revenu après 97, il avait lui-même pas mal changé et adouci certaines choses. Même s'il faisait pas de compromis, il avait compris que la méthode pour obtenir des résultats était pas forcément la plus brutale, toujours, et qu'il fallait savoir alterner. Mais souvent, ceux qui trollent sont ceux qui méritaient pas d'avancer, en fait.
Ah bah, c'est certain.
Donc voilà, on n'élève pas les gens dans la facilité. C'est, si t'élèves les gens le cul dans le beurre, tu fais des gros fainéants, en général grassouillés.
Surtout derrière cette approche managériale, il y a beaucoup d'amour. En fait, c'est ça qu'il faut détecter et qui est très difficile, je trouve, à détecter. C'est que parfois, tu te dis, putain, je fais ça, on le remarque pas, blablabla, etc. Mais on le remarque pas parce qu'en fait, la personne qui est en face de toi pense que tu vaux mieux, que tu peux mieux faire, que tu peux aller plus loin. Et ça, je pense que c'est le plus difficile parce que ça te tord dans tous les sens. Tu te dis d'un côté...
Tous les parents peuvent comprendre ça. Ouais. T'as un gamin qui te ramène un 13 sur 20. C'est comme ça que c'est noté en France, je crois.
Ouais.
Sur 20.
Moi, j'avais 11, c'était le champagne.
Tu sais que ce gamin, il vaut 15 ou 17. C'est quand même assez difficile de lui pourrir la gueule quand il ramène un 13.
Ouais. Oui, ça, c'est pour son bien.
Mais c'est pour son bien. Et tu vas le faire. Et tu vas lui dire, c'est médiocre. Enfin, moi, j'ai aucune difficulté à le faire. Et c'est ce que je fais tous les jours dans mon travail. C'est-à-dire que j'engueulerai jamais quelqu'un qui ramène un 13 et qui vaut 13. Par contre, j'engueulerai toujours quelqu'un qui me ramène un 13 et qui vaut 17. Et j'essaye, dans mon travail, de détecter des gens qui valent entre 20 et 25 sur 20.
Ah oui. Donc le mec qui ramène un 13...
Ce qui est inacceptable, c'est de jouer en dessous de ton niveau. Et de penser que parce que tu as produit des efforts, on va te féliciter. Et la pire des arguments, c'est de dire « Oui, mais la moyenne de la classe était à 10 ».
Ça, c'est horrible, je suis d'accord.
Et alors ?
Moi, j'ai beaucoup dit ça, moi.
Bah oui. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.
Moi, j'ai dit, ma vidéo YouTube, tu la trouves comment ? Voilà. C'est pas de vanne.
Vous voyez comment il a fini.
Eh oui.
Neuvième leçon. Mm-hmm. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive.
Ça, c'est sûr.
Arrêtez de vous victimiser, parce que personne ne viendra vous sauver.
Mais il faut le comprendre et il faut l'accepter, c'est tout. Je pense que t'as pas d'excuses, t'as pas de trucs...
Non, mais on va simplifier le message. C'est déjà miraculeux que quelqu'un s'arrête, écoute, te donne quelques conseils et essaye de te faire progresser.
Alors, si
déjà ça, ça, c'est miraculeux. Ça veut dire que tu as de la chance. Ça veut dire que la majorité des gens font croire qu'ils t'écoutent, font croire de te donner des conseils. En réalité, n'en ont rien à foutre. Si tu as quelqu'un qui s'arrête, qui prend le temps de t'écouter, qui te donne du temps, qui essaye de comprendre ton histoire profondément, ton passé, ton présent, tes ambitions futures, qui va faire un travail sur mesure pour essayer de te permettre d'avancer, ça s'appelle un ange. C'est miraculeux. Respecte-le. Si comme un connard, tu dis « Ouais, ouais, j'ai tout compris » et que tu fais rien, bah, t'es qu'une merde.
Et je trouve hyper intéressant le fait de dire que personne viendra te sauver parce que c'est absolument vrai. À la limite, on peut t'écouter pendant que tu te victimises pendant trois quarts d'heure. Mais en fait, personne va jamais t'aider. Déjà parce qu'on n'a pas envie d'aider quelqu'un qui fait que de se plaindre. Et c'est pas en disant toute la journée, oui, mais c'est la faute de mon patron, c'est la faute de l'État, ça va rien changer à ta situation, en fait.
D'ailleurs, les gens qui pensent que c'est toujours la faute d'un paramètre extérieur et jamais de la leur, qui commencent toujours par incriminer des paramètres extérieurs au lieu d'essayer de chercher ce qu'ils ont mal fait eux-mêmes, c'est souvent mal barré.
Oui, mais est-ce que ce serait pas de la faute du système ? Dixième leçon de vie, je l'aime beaucoup celle-là. Toute relation est sous le contrôle de la personne qui s'en soucie le moins. S'il faut deux personnes pour créer une relation, il n'en faut qu'une pour y mettre fin.
Ça, c'est certain.
Ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on fait en permanence dans le business.
Bah, si tu te poses trop de questions, si tu mets trop de temps pour avancer, si tu réfléchis trop, si toutes les deux secondes t'es en train de te dire « Ah, mais il pense quoi, tu crois, ce matin, je lui ai dit ça, oh là là, quel enfer !»
Puis quand tu lui donnes trop de pouvoir, c'est pour ça que je dis qu'on fait ça dans le business, et je sais que quand Influx vend une OP, il a un peu cette attitude de « Bah, de toute façon, on a plein d'autres trucs sur le feu, en fait, on va pas passer trois jours à essayer d'avoir ça, si vous voulez pas qu'on bosse ensemble là-dessus, nous, on bosse avec quelqu'un d'autre, en fait. »
Exactement.
Ben, ça, c'est une méthode qui fonctionne.
C'est une méthode qui fonctionne. J'aime cette phrase qui dit « Tout ce qui traîne se salit ». C'est exactement ça. En fait, si tu es pressé, si tu as la chance d'avoir de l'opulence, de l'abondance autour de toi, eh bien tu peux te permettre de passer ton tour sur un certain nombre de questions. Et donc, ça donne beaucoup de pouvoir à celui qui ne survalorise pas une situation ou une relation.
On en a beaucoup parlé aussi dans le podcast sur l'art de séduire.
Ouais.
Voilà, c'est une notion qui revient souvent. Onzième leçon, vos plus grandes forces sont souvent vos plus grandes faiblesses. Ce qui fait le succès d'une personne dans sa vie pro peut la rendre insupportable dans sa vie perso.
Bah, regarde Romain et son intelligence.
J'allais dire, il y a un truc que vous pensez insupportable chez vous, dans le perso, mais qui a une qualité pro.
Vas-y Romain, je te donne le droit de te venger.
Ah bah oui, il y a des trucs à dire sur Manuel, je pense.
Ah oui.
Déjà l'odeur.
C'est gratuit, mais c'est bien envoyé. Manuel, je dirais l'implication. L'implication qu'a Manuel pour le travail bien fait, etc., dans le pro, c'est génial, parce que ça te pousse toujours à l'excellence et tout ça. Dans le perso, ça peut te rendre fou et ça peut rendre une relation trop importante ou avec trop de valeur, trop rapidement.
Ouais.
Parce que Manuel veut pas perdre plus d'une semaine, quoi, c'est mort. Enfin, s'il y a un truc qui marche pas, faut le savoir maintenant, donc quitte à le faire maintenant, faisons-le maintenant avec 150% des ressources, plutôt que d'essayer de le faire crescendo et de voir dans 3 mois comment ça se comporte. Voilà. Et donc ça, dans le business, c'est génial, parce qu'avec Manuel, c'est action-réaction. Dans le perso, ça peut faire tomber beaucoup de dominos.
Oui, c'est très vrai. Je suis extrêmement impatient. Je considère que le temps est un truc que tu n'as pas le droit de gâcher. Mmh. Et donc, il faut aller très vite. Il y a des sujets dans lesquels il faudrait prendre son temps, il faudrait être plus prudent, etc. Et moi, je considère que, bah non, en fait, quand tu sais, tu sais. Donc, tu y vas, ça fonctionne, c'est super. Ça fonctionne pas, tant pis, en fait.
Mais je pense
Et je pense que tu as tout à fait raison quand tu dis ça, en fait. Ça peut rendre les choses dures à supporter pour beaucoup. Parce que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'exceptionnel. L'excellent ne me suffit pas.
Toi, Léo, ça serait quoi le point que
chez
tu
moi
trouves très positif en pro, mais qui t'aide pas du tout en perso?
Je crois être assez parfait, mais je vais réfléchir quand même.
Ouais, non, parce que tu es pas forcément... Enfin, tu vois... Okay.
Je pense que déjà, il y a très peu de différence entre le moi pro et le moi perso. Comme je suis pas très pro, je suis plus souvent perso finalement, donc il y a assez peu de différence.
Sors de ton personnage, Léo.
Non, je sais pas. Je pense que j'ai une capacité à ne jamais me causer de problème. Mmh. Et en fait, simplement, quand un truc m'emmerde, je le fais pas. Et je pense que c'est une très grande qualité pour ma vie pro. Je pense que c'est une très grande qualité parce que ça m'évite de faire plein d'erreurs et de partir un peu dans tous les sens. Et au final, je fais que des trucs que j'aime profondément. Dans la vie perso, c'est un peu plus complexe parce que c'est une vision assez égoïste finalement.
Et le point de la liste qu'on vient de citer, c'est que tes faiblesses sont en réalité
tes plus grandes forces.
Tes plus grandes forces. Et en fait, pour Léo, c'est sa sensibilité.
Mmh. Mmh.
En fait, sa sensibilité est une très grande force. Ça lui permet de ne pas lire les situations comme les autres, d'être plus subtil dans la lecture des situations. Mais comme il n'a pas tellement envie de montrer ça, il va s'en cacher derrière des vannes, un personnage un peu plus aseptisé ou distant, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dedans. Et en fait, j'essaye tous les jours de... convaincre, alors j'irai pas jusque là, mais de le convaincre que sa sensibilité est une force.
Mmh. Voilà, prochain point.
Je l'aurais pas analysé. Et attends, on a dit Romain ?
Non, prochain point.
On n'a pas dit Romain, il me semble.
Non, on n'a pas dit.
Romain ?
Mais là, l'épisode va faire 2h30.
Alors Romain, chez toi.
Dites-le moi pour moi, hein. Moi ça me va très bien. Je sais pas.
Peut-être le choix des chaussures.
T'es quelqu'un. Non, c'est ni un atout dans le perso, ni un atout dans le pro.
C'est vrai, c'est tout le temps de la merde. Alors, on va trouver autre chose. Romain ne prend jamais rien mal.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'il a une très très grande tolérance, mais qui est surhumaine. Tu peux lui dire n'importe quoi. Du moment que t'es quelqu'un qui l'apprécie, ça lui posera pas de problème.
Ouais, mais si t'es l'autre partie, j'en ai rien à foutre.
Si un jour il t'a dit un truc qu'il a mal pris, bon, c'est que tu fais pas partie de ces gens-là. En revanche, c'est une très bonne qualité dans le pro. Parce que je pense du coup que t'es un peu rentre-dedans, c'est-à-dire que t'as pas peur de dire les choses. Et dans le pro, c'est hyper important de pas avoir peur de dire les choses. Je pense que dans le perso, ça peut te poser quelques problèmes, parce que c'est parfois plus délicat, et parfois dans le perso, les gens ont pas forcément envie que tu ailles comme ça, de but en blanc, leur dire ce qu'ils ont peut-être besoin d'entendre.
C'est vrai que j'ai dû faire beaucoup d'efforts, parce que sinon c'était... Enfin, dans le pro, je savais que pour faire avancer certaines choses, etc., j'arrive, je donne mon opinion, ça te plaît pas, mais c'est le mien, je t'emmerde et on passe à la suite. Dans le perso, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai commencé un petit peu à essayer de me mettre à la place de l'autre. Ce qui est un énorme chemin. pour moi, c'est exceptionnel parce que vraiment, il y a de ça même pas 3-4 ans, tu me disais ça, je te disais bon.
Mais tu n'es pas une exception et dans ta génération, encore moins. Y a eu une ablation de l'empathie sur la majorité des gens de cette génération. En fait, le monde est regardé au prisme de quel est leur intérêt.
Ouais.
Parce que c'est la génération in demand. Donc je veux pas attendre, je veux ça tout de suite, maintenant, nanana. Donc il y a un niveau d'empathie qui est assez faible. Alors ok, c'est une généralité, on peut pas dire ça de toute cette génération, etc. Ok, mais il n'empêche que quand on regarde la vaste majorité, et ça s'explique, hein, d'un point de vue sociologique, ça s'explique. C'est la génération de la précarité, c'est la génération qui a vu ses parents subir le chômage, les vagues de licenciements inexpliqués au profit des profits et pas d'une entreprise consciente et humaine. C'est la génération de l'angoisse écologique, etc., etc. Donc tout ça, ça crée un repli extrêmement égoïste en se disant de toute façon, tout autour de moi est tellement pourri que j'ai aucune raison d'avoir une espèce de grandeur d'âme, de discipline, de valeur, d'éthique morale que je ne fais pas pour moi, mais que je fais par principe. La notion même de par principe est un truc qui est extrêmement absent si vous avez aujourd'hui entre 18 et 30 ans.
Eh ben merci pour un compliment qui finalement n'est pas tant un compliment que ça dans le pro.
T'es une merde.
Ouais.
12e leçon. Le confort est un terrain fertile pour la médiocrité.
Ben on en a parlé.
La croissance ne se produit que lorsque vous êtes dans l'inconfort.
Ouais.
On a parlé un petit peu de l'art de se mettre en difficulté il n'y a pas longtemps, avec une petite spécialité. On a mangé des piments, on s'est bien arraché la gueule. Oui, Manuel.
D'ailleurs, allez voir notre TikTok.
Tout le monde le comprend quand tu t'entraînes physiquement.
Ouais.
C'est-à-dire quand tu t'entraînes physiquement parce que tu veux progresser, tu acceptes d'avoir mal. Ça fait partie du deal.
Ouais.
Donc tu sais que tu vas devoir fournir un effort, que tu vas avoir des courbatures, que ça va piquer, etc., etc. On a plus de mal à l'accepter intellectuellement.
Ouais.
Bah, c'est la même chose. Pour progresser intellectuellement, il faut avoir mal. C'est la condition du progrès. Il va falloir que tu te déçoives, il va falloir que tu te fasses violence, il va falloir que tu appliques des méthodes de pensée qui ne sont pas les tiennes. Il va pas falloir que tu les comprennes, il va falloir que tu les appliques. Il y a une grande différence entre ceux qui les comprennent et ceux qui les appliquent. Une des qualités de Romain, c'est que il les comprend et il finit par les appliquer.
Un de ses défauts. Là, je pense qu'il faut qu'on arrête. Hein.
Un de ses défauts.
Si tu l'annules quand même.
C'est le délai entre les deux.
Ok. J'ai eu peur. Je pensais que t'allais le saucer dans ce podcast.
Non, mais ça va. Il est sur la bonne voie.
Merci. 13e leçon. On en a parlé tout à l'heure, donc je vais juste l'évoquer rapidement. L'adversité est le meilleur indicateur de qui vous êtes. Pas de commentaire à faire en plus là-dessus.
Non.
On a parlé en plus des adversaires. Ouais.
Moi, j'estime que plus tes adversaires sont de haut niveau, plus ça dit des choses sur toi. Ça veut dire que tu joues dans la bonne cour, c'est très bien. Vaincre des gens qui n'ont pas un bon niveau montre que tu es en train de perdre ton temps ou t'attaquer à des plus faibles, ça sert à rien.
On le comprend très bien dans les jeux vidéo d'ailleurs. C'est beaucoup moins marrant de jouer avec ton petit neveu de 4 ans que de jouer avec quelqu'un en ligne qui a à peu près ton niveau.
Je te reprends quand tu veux, FIFA.
Bah, je te fume à chaque fois. Donc
Bon, on y va les garçons, les concours de garçons.
14e leçon. Le succès exige...
Oula. Pardon.
14e leçon.
Et il dit quoi alors,
le succès exige un engagement. Vous ne pouvez pas viser une cible que vous refusez de voir. L'ambiguïté de vos objectifs entraîne l'ambiguïté de vos résultats.
Bah oui. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va.
C'est pas ça. Je cherchais la citation exacte.
C'est Sénèque.
Je pensais que t'allais me la donner. C'est pas ça, tout à fait.
C'est à peu près ça. Google it.
Il naît de vent favorable pour qui ne connaît pas son port.
Alors moi, je n'en mange pas, personnellement.
C'est vrai. 16e leçon. La vraie richesse... Oh, Romain, j'adore. J'ai hâte d'avoir ton avis. La vraie richesse se mesure en temps libre et non en accumulation de possessions.
Bah ça, ça a été écrit pour Romain, ça.
Les voitures de luxe et les biens coûteux cachent des insécurités.
Alors oui, c'est vrai, ça cache des insécurités.
Et sur la première partie de la phrase
Le temps, oui.
Oh.
Non, mais maintenant, je suis d'accord. Il y a de ça encore 6 mois, je t'aurais dit...
Gros, c'est
je préfère avoir
le vrai
un
luxe.
Voilà.
Le vrai luxe, c'est de savoir que tu as du temps, que tu peux ne rien foutre et que ça ne va rien changer absolument à ta vie, à ton niveau de vie, à ton rapport aux autres, etc., etc.
Je peux vous partager un truc ?
Bah, avec grand plaisir.
Bon, bah, en fait, bon, je vais régler ça ce week-end, mais ça fait un mois que j'ai touché aucune voiture. Voilà.
Super.
Voilà, je n'ai pas fait de petits tours en voiture, de trucs que j'aime bien faire le week-end, etc.
J'ai cru que tu allais me parler de la sortie des écoles.
Non, mais c'est vrai que, tu vois, c'est là où, par exemple, la lecture, quand, en pleine semaine, tu peux prendre 40 minutes dans une journée pour juste lire un livre qui te plaît...
C'est fou, hein.
Mais tu te sens tellement riche...
Même 3 heures, hein.
Non, mais c'est fou.
Vraiment,
alors
tu te sens...
Alors que t'en as pas envie à la base, hein.
De base, t'en as pas envie, mais vraiment, tu te dis juste, putain, c'est incroyable, le temps s'arrête, en fait. Mm. En fait, je suis pas obligé de juste être dans une accumulation de plus je fais d'emails, plus je fais de trucs, mieux c'est, quoi.
Mais ça, on s'arrête 2 secondes. La suroccupation. Le principe de se suroccuper ou de se montrer occupé, etc., c'est aussi donner énormément de pouvoir au regard des autres. C'est une dépendance au regard des autres. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui valorise énormément le travail et les facteurs extérieurs de richesse liés au travail et au succès. Et donc, il faudrait être toujours très occupé, inaccessible, indisponible, ne pas répondre à ses emails, etc., etc., pour être quelqu'un qui a réussi. Alors, et les gens, d'ailleurs, sont étonnés quand tu restes accessible.
J'allais dire, toi, t'es un très bon exemple là-dessus, parce que quand on te voit de l'extérieur, on se dit, lui, il doit être injoignable. Alors que c'est tout l'inverse.
Parce que tu t'appelles Léo, bah, c'est tout.
Peut-être, mais il n'y a pas que moi dans son entourage.
C'est-à-dire, ouais, mais il y a très peu de personnes.
Bah, y a quand même pas mal de gens dans l'entourage de Manuel qui bossent avec lui ou alors dans le perso pour qui il est extrêmement joignable parce qu'il sait que ça a un intérêt.
Je suis pas d'accord.
Oh bah alors là...
Pas du tout. Pardon. Non, non. Je pense qu'il y a moins de 10 personnes dans le répertoire de Manuel qui peuvent l'appeler et où Manuel va répondre du premier coup.
Non, mais c'est pas une question de répondre du premier coup.
Non, mais je suis d'accord mais avec ça.
Quand, parler vois, de choses différentes.
Quand tu vois le nombre de calls qu'il prend dans la journée,
oui.
C'est quelqu'un d'extrêmement joignable, Manuel. C'est pas quelqu'un qui te dit en permanence bah, parler à ma secrétaire. D'ailleurs, il
ah
a
non,
pas,
non,
il a
bien
pas de
sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, ça oui.
Ça fait 25 ans que je travaille.
Sexuelle.
Je n'ai pas de secrétaire. Il n'y a personne entre le public et moi. Les gens qui lisent ma newsletter et qui m'écrivent ont tous une réponse.
Ouais.
Tous. J'ai 100% des gens qui prennent
t'es
le
dans
temps
la merde.
De m'écrire pour réagir à un truc ont une réponse.
C'est pour ça, il est hyper joignable.
Parce que j'estime qu'il faut honorer ça. Ils ont fourni un effort. Mm. Bah, tu réponds. Alors, je te dis pas que je vais te répondre une page et demie et je te dis pas que je vais te répondre dans l'heure qui suit. Mais je vais te répondre. C'est sûr que je vais te répondre.
Moi, par exemple, je fais pas ça. Donc, m'envoyez pas de message.
Et je sais que vous, c'est pas vos codes.
Non,
en fait.
Pas du tout.
Mm. Voilà, moi, j'estime pas que être inaccessible est une preuve du fait que t'es important. Ça rassure le mec de se dire. Je vais quand même pas répondre à ce mec. Ou alors, c'est ce que je déteste le plus, c'est les mecs qui regardent sur Twitter, tu sais, ils disent « Oh ben lui, il a pas beaucoup de followers, je lui réponds pas.
» Ça existe,
ça. Ben oui, ça existe.
En même temps, moi, c'est pas mes codes, mais les gens, ils me posent des questions qu'ils devraient poser à l'assistance d'Apple aussi.
Voilà, mais si la question est débile, ne réponds pas. C'est pas parce que t'as pas beaucoup de followers que tu mérites pas une réponse. Si ce que tu dis est très intéressant, on va te répondre. Les seules personnes auxquelles je réponds pas, c'est quand on m'envoie des trucs débiles... qui flirtent avec, bon j'en ai pas beaucoup heureusement, mais qui peuvent flirter avec des insultes ou des trucs inintéressants.
Ça tu me les envoies.
Voilà. Mais
bon, envoyez-les à Romain directement.
Vous n'allez pas être déçus.
Voilà. Mais ouais, moi j'estime que... Alors attention, c'est pas parce que t'es accessible que tu donnes ton temps à n'importe qui. Hein.
Bah non. Non mais être accessible ça veut pas dire que tu réponds tout le temps. Ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée.
Exactement.
Après, tu peux prendre la mauvaise.
Voilà. Et je sais extrêmement bien faire un autre truc, qui est d'être inaccessible.
Oui, ça c'est sûr.
Si je le décide, si j'estime que tu m'as démontré que t'étais une perte de temps absolue et que tu ne servais à rien, et après avoir essayé, réessayé, expliqué, réexpliqué, sincèrement, j'excelle dans le silence. Hein. Je pense que vous pouvez en témoigner. Mmh. Et oui, puis, ça va pas me perturber en plus personnellement.
C'est sûr. 17e leçon.
Oui.
Je crois que c'est ma préférée parce que c'est celle que j'applique le plus dans le pro. Ne prenez pas de critiques de personnes dont vous ne prendriez pas de conseils. Ça, c'est une arme de défense massive sur quand tu fais du contenu sur Internet. Et dans la vie en général, je pense.
Mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas grand chose d'autre à dire.
Non, elle se suffit.
Elle se suffit.
Ouais, ouais, complètement.
Il n'a pas écouté Romain.
Non, si. Romain, il était sur son téléphone.
Ouais, il était en train de jouer à Flappy Bird.
Non, j'ai juste rien à ajouter.
18e conseil. On en a parlé tout à l'heure, elle est facile celle-là, c'est pareil, on va pas avoir grand chose à dire dessus. Lire est le super pouvoir le plus accessible que la plupart des gens refusent d'utiliser.
Bah, c'est plus facile de regarder TPMP. Hein.
Voilà, bon, ça c'est lancé.
Non, mais vraiment, non, il faut juste s'arrêter 2 secondes pour continuer de faire prendre conscience.
Mais on l'a fait 1000 fois.
Aux gens. Mais je sais, mais ça suffit pas.
Mais au bout d'un moment, si ça suffit pas, ça veut dire que les gens n'ont pas envie de changer et on peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver soi-même.
Oui, mais c'est pas désagréable, c'est juste une nouvelle discipline. C'est ce que je veux juste faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas un effort comme aller faire du sport. C'est juste un effort différent parce que surtout notre génération n'a pas pris l'habitude. Quoi ?
C'est plus facile, hein.
Ah non, moi je trouve pas.
Ça m'étonne pas.
Bon, tu peux te mettre avec un bon petit verre de jus de pomme, une petite lecture, une musique un peu d'ambiance. Franchement, c'est stylé de lire.
Oui, c'est trop cool. Tu m'étonnes que tu comprends ce que tu lis.
Il est con, lui.
C'est plus facile d'ouvrir un livre que d'aller faire des pompes là tous les matins.
Ah, d'accord, je pensais que tu disais l'inverse. Ok.
C'est bon con, quoi.
Non. Voilà. Donc, je suis d'accord. Mais pour ça, il faut
Ça dépend pour qui. Il y a des gens, ils sont très contents de faire leur summer buddy, qu'on les regarde dans la rue, etc. Encore une fois, le regard des autres, machin, etc. Et donc, pour eux, la discipline sportive, ils seront payés en feedback social. Mmh. Être un peu moins con, ça se voit pas de l'extérieur.
Ah, il y a quand même un feedback social.
Il
y
en a un, mais il est moins évident.
Oui,
au premier regard.
Oui, bien sûr, il est plus subtil. Ouais.
Et donc, il n'y a pas un grand bénéfice à être un peu moins con que la moyenne quand on te regarde.
C'est vrai.
Après, sur la durée, c'est quand même plus sympa.
Ça, c'est pas que le summer, là.
Non.
19e leçon de vie. Votre réussite dépend de votre capacité à retarder la gratification. Les choix faciles que vous faites aujourd'hui rendront votre vie plus difficile plus tard.
Je l'ai tellement dit, redit, réexpliqué. À chaque fois, je m'étonne moi-même de trouver des métaphores. Dans ce que j'écris, j'en ai même parlé de mes newsletters, mais c'est vrai que c'est des sujets dont je parle souvent dans mes newsletters, mais j'essaye de trouver différents angles pour faire en sorte que ça parle aux gens qui lisent. Mais la facilité d'aujourd'hui, c'est ta dette de demain. Tu t'endettes. Chaque fois que tu fais un choix facile, tu t'endettes. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Et à un moment, il faudra payer l'addition. Donc, est-ce que tu veux faire des efforts aujourd'hui pour avoir un solde positif et ne jamais avoir à être endetté, ou est-ce que tu veux prendre du bon temps aujourd'hui et courir derrière le remboursement de ta dette toute ta vie? C'est quand même pas bien compliqué à comprendre. Hein.
Arrête, j'ai l'impression de me faire engueuler par mon banquier.
Mais à comprendre, jamais. À appliquer, c'est
plus dur. Ouais.
Ben oui, parce que c'est comme la dépendance, en fait. Tu commences toujours par dire, ouais, mais c'est qu'un petit verre.
Ça marche aujourd'hui, ça marchera demain.
Bon, ça, on le fait. Hein.
C'est pas grand chose. C'est de la drogue douce, c'est pas de la drogue dure, etc., etc.
Mais tu le fais tous les jours.
Et au bout d'un moment, quand tu consommes tous les jours, quand tu passes de produit en produit, de toujours de plus en plus fort, etc., au final, t'es juste un camé, en fait.
Mais ce qu'on dit
et
là.
Et tu peux être un camé à la facilité.
Est-ce que c'est
un camé à la sortie, aux boîtes, au resto entre potes, etc. Et au bout du bout, une semaine est passée et tu n'as rien fait de productif pour toi. Tu as juste fait de la distraction ou de l'abrutissement social.
Mais j'allais dire juste les personnes qui, quand elles rentrent chez elles, considèrent qu'elles ne sont plus au travail, donc elles ne doivent pas fournir d'efforts pour elles-mêmes. Ne serait-ce que ça, c'est une dette que tu paieras un jour. Rentrer chez toi et te dire, oh, bah, pour une fois que je rentre à 17h, hop, tu fais du TikTok, tu fais du Facebook, tu te prends un bain, tu glandes rien, et après tu regardes la télé jusqu'à t'endormir. Bah, en fait, c'est juste con, t'aurais pu ne pas travailler, mais juste être productif pour toi et pour t'élever avec toi-même, en fait.
Oui,
déjà, si tu considères que investir sur toi, c'est un effort et du travail, il y a déjà un problème.
Mais il y a
le travail, c'est une tractation, un deal où tu échanges du temps et de la compétence contre de l'argent. Ça, c'est le travail. Et la vie perso, c'est passer du temps à essayer de faire des choses qui te rendent un tout petit peu moins con que la veille. Et ça se passe centimètre par centimètre. Et pour certains, millimètre par millimètre.
Léo, ça. Ouais.
20e et dernière leçon. Mm-hmm. Bon, celle-ci, elle était facile. On l'a dit 1000 fois. Je voulais finir un peu plus sur retomber sur nos pattes et revenir sur des bases pour la fin. Votre environnement est le facteur le plus déterminant de votre réussite. Si vous fréquentez des perdants, devinez ce que vous obtiendrez. Vous faites bien d'écouter Take Out.
Ouais, pas grand chose à dire là-dessus.
Non, mais c'est souvent sur ce sujet que je suis... Non, je veux... Non.
Les gens le comprennent. On dit qu'on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Les gens comprennent cette phrase, mais ont du mal à la pratiquer.
Mais ça marche dans ton couple, ça marche dans ta famille. Les gens qui ont une famille qui ne considèrent pas très intéressante, enrichissante, etc., juste parce que c'est le même sang et qui passent du coup tout un week-end, chaque week-end avec la famille parce que c'est la famille... Par exemple, juste ça, c'est un drame.
Et la peur de se faire déshériter, souvent.
Aussi, oui.
Non, mais je veux dire, c'est pareil. Si dans ton couple, tu te dis, ah oui, c'est super, etc.
Il a compris, il est parti. Hein.
Mais... mais la personne avec moi a moins d'ambition, veut aller moins loin, c'est gnangnang, etc. Bah, c'est que forcément, tu t'élèveras moins parce que tu passes beaucoup de temps avec cette personne-là. En fait, c'est simple, il faut que tu prennes. Tu te fais un tableau Google Sheet avec tous les gens que tu vois toute la semaine. Et si, pour toi, la majorité du tableau ont des ambitions et un travail... moins important que le tien, bah c'est que forcément, à un moment, tu vas stagner. En
Alors
fait.
Attention sur le travail moins important, c'est-à-dire.
C'est-à-dire ce qu'a dit Manuel, pardon, c'est pas le travail, ah, c'est d'accord. Le fait de vouloir être moins con que la veille, etc. etc. Voilà, c'est okay. Ça que je veux dire. Okay. C'est...
Ça n'a aucun rapport avec le statut ouais. Social, le travail, ou je sais pas quoi, c'est plutôt la discipline, etc. D'accord. Parce que t'as pas besoin d'être un entrepreneur, t'as pas besoin d'avoir du succès professionnel pour être quelqu'un d'intéressant. Moi je connais des gens qui minimisent la quantité de temps qu'ils passent au travail mais qui maximisent la quantité de temps qu'ils passent à s'instruire et c'est ils vivent très bien avec ça, ils disent bon voilà je vais faire avec moins d'argent mais j'ai plus de temps disponible et ce temps je l'utilise intelligemment et c'est très respectable.
Ouais.
Y a pas de problème avec ça à partir du moment où les deux sont en phase, mais on ressemble à son environnement. Et ce qui m'énerve le plus, ce sont les critères d'âge. Toutes ces conneries qui disent « on n'a qu'une seule jeunesse », etc. Mais c'est irresponsable comme propos.
C'est pour ça, toi, t'es avec des petits jeunes.
Que des parents disent à leurs enfants « tu n'as qu'une seule jeunesse, ne la gâche pas », etc. Mais t'es complètement con. Tu devrais pas avoir le droit de te reproduire pour dire des trucs aussi bêtes. Tu devrais même pas avoir le droit d'engendrer une descendance. C'est justement en disant à tes enfants que plus tôt tu es instruit, intelligent, plus tôt tu investis en toi, plus ta vie, qui va fatalement être la plus longue possible, sera intéressante et moins tu auras de dépendance parce que tu connaîtras les choses vite et tu seras donc un peu moins con et tu auras peut-être engendré plus de valeur, plus de liberté plus tôt. Donc il n'y a surtout aucun temps à perdre. Il n'est jamais trop tôt pour faire les bonnes choses et les bons choix.
La bise.
Salut.
Thank you.